Palabre, en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas.
Sans cet effet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et nous revoici à Florac dans le studio de Radio Bartas 107 FM. Ça fait bien longtemps qu'on n'est pas ici, hein, la fine équipe. Bonjour Margot.
Et salut.
Bonjour Aymeric.
Salut.
Et bonjour Mathieu Lévesque.
Bien le bonjour.
Alors Mathieu, aujourd'hui on t'a invité parce qu'il paraît que tu es passionné d'histoire et de forêt. Et alors on a voulu que tu nous parles un peu plus de ta passion, de ton activité. Ton activité, ton entreprise, elle s'appelle, attention, je vais essayer de ne pas me tromper, les Rayoliens.
Tout à fait.
Je l'ai bien dit.
C'est bien ça, les Rayoliens.
Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais ?
Alors du coup les Rayoliens, c'est une association mais aussi une auto-entreprise, donc c'est deux structures un peu différentes mais qui actent sur le même champ d'action qui sont l'histoire, l'environnement et le territoire gardois, lozérien, on va dire les Cévennes de manière générale. L'objectif c'est de valoriser le patrimoine naturel, historique et les liens qu'il y a entre ce patrimoine et notre territoire, d'où ce nom assez particulier, Rayol, les Cévennes. Et liens qui font du lien entre histoire, nature, notamment une histoire qui est assez riche dans nos territoires. Et l'idée est partie d'une passion que j'avais à la fois pour l'histoire de nos territoires, l'histoire forestière et l'histoire naturelle qui est liée aussi à mon parcours d'études, d'une grosse collection d'objets personnels que je souhaitais valoriser pour parler de ce patrimoine-là de manière vivante et ludique, d'où l'idée de créer cette structure-là.
Voilà. Donc du coup, dans l'idée, tu fais des balades en forêt, des animations où tu peux parler du coup de ces sujets-là ?
Alors c'est très divers, voilà, ça va être comme tu dis des balades en forêt, ça peut être aussi des expositions, des conférences, ça peut être aussi des visites guidées dans des lieux particuliers ou même tout simplement sur la recherche historique, la réalisation de chroniques pour des petits fascicules, des magazines, etc.
Et d'habitude, bon là tu ne le portes pas, mais on te voit costumé.
C'est ça, tout à fait.
Et donc là, tu le vis le patrimoine, même en seconde peau. Tu peux nous parler voilà, de tes costumes.
Eh bien entièrement, l'idée c'est de faire vraiment de l'immersif par le biais notamment de l'objet et aussi des tenues pour représenter diverses professions qu'ils pouvaient avoir. Ben là notamment par rapport à l'histoire forestière, donc la tenue de l'administration des eaux et forêts qui est une tenue assez atypique. La tenue là est celle que je portais notamment à l'occasion de la fête de la forêt mais même à d'autres occasions et celle qu'on pouvait retrouver dans les forestiers au début du XXe siècle, à l'époque de Georges Fabre notamment qui a reboisé les Gouales. Donc tu veux que je te décrive un peu plus la tenue ?
Oui.
Donc elle va se constituer de plusieurs éléments. On va avoir tout d'abord le képi, on est sur une administration d'État, donc il va avoir le képi orné du corps de chasse, l'uniforme en tant que tel, tout comme le képi, de couleur vert forestier. Ensuite on va avoir une vareuse, pareil, qui s'inspire des uniformes réglementaires qu'on pouvait avoir à l'époque, autant sur la gendarmerie, la police que l'armée. Un pantalon, soit qu'on appelait une culotte de cheval, pour pouvoir crapahuter dans l'inture, une paire de guêtres avec des brodequins. À cela, on va avoir tout un petit équipement, donc on va avoir le baudrier et le ceinturon, sur lequel le garde forestier va poser sa plaque d'assermentation, l'équivalent d'une plaque ou d'une carte de police aujourd'hui. On va avoir aussi un étui à pistolet, parce que tout comme aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, le braconnier, le pillard ou qui venait piller des forêts ou dévaster les forêts étaient souvent armés. Il y a de nombreux méfaits où les gardes forestiers se faisaient tirer dessus. Donc ils étaient armés, tout comme l'est aujourd'hui la police de l'environnement, par exemple. Et à cela, on va voir aussi la besace avec tout son équipement pour pouvoir faire l'une de ses plus grandes missions qui va être notamment de gérer, entretenir, contrôler les forêts du domaine public, que ce soit les forêts communales ou domaniales d'État.
Et comment tu l'as trouvé ce costume en fait ?
Alors, ces costumes, là, notamment celui que je présente là, actuellement, qui date de 1900-1910.
Ah, c'est son âge, hein.
C'est son âge, ouais. Ils sont en parfait état, très magnifique, bien conservés. Et j'ai eu la chance de le chiner par un contact qui travaillait dans un ancien garde forestier. Et du coup, qui savait que dans une ancienne maison forestière qui avait été revendue, elle avait été revendue avec du vieux matériel dedans. Et j'ai pu avoir le contact de la famille qui avait racheté cette maison, qui n'avait pas eu le temps de vider le grenier. J'ai pu récupérer l'uniforme qui traînait encore dans le grenier, dans une malle, d'où le fait qu'il était parfait. Donc c'est des objets comme ça qu'on parfois on va me donner, que je vais collecter un peu aux quatre coins du territoire.
Les yeux d'Emeric s'illuminent. Vas-y.
Petite question, est-ce qu'il y avait le marteau?
Et non, le marteau, il n'y avait pas.
Le fameux marteau avec lequel les forestiers martèlent.
Normalement, on n'est pas censé pouvoir retrouver ce marteau. Du moins, on peut retrouver le marteau, mais il sera lissé, poncé. Oui. Vu que c'est un marteau d'État qui est toujours utilisé, on ne peut pas avoir les sigles. Même si, dans mon idéal, un jour tomber sur un marteau forestier avec l'écriture AF, qui correspondait à l'époque soit administration des finances, soit administration forestière, écriture en lettres gothiques, ce serait l'objet de collection ultime pour parler de l'histoire forestière.
On peut en reparler un petit peu, vous l'avez évoqué quand même rapidement, mais à quoi sert ce marteau?
Bah alors, le marteau forestier, c'est un outil, on va dire, moi je le qualifie comme outil pour repérer et mieux gérer son massif forestier. Ça va permettre, quand on va être dans un massif forestier, d'identifier une parcelle, des arbres, pour, en fonction de ce qui va être écrit sur un document, aujourd'hui qu'on appelle document de gestion, va pouvoir permettre à l'exploitant par la suite, voire même à d'autres gestionnaires, de savoir ce qu'il va falloir appliquer sur la parcelle ou le traitement qu'il va falloir faire sur l'arbre qui a été martelé, voire même sur une parcelle.
Pour compléter, un arbre martelé, c'est-à-dire qui a reçu le sceau, donc le AF donc, qu'il a décrit sur l'arbre. Donc il y a une partie qui sert à trancher l'écorce et à décaper l'écorce. Donc ça, c'est le côté tranchant. Et l'autre côté où il y a le sceau, on tamponne. Et ça a vraiment une valeur, finalement, de donner une valeur financière à l'arbre. Et c'est pour ça que la contrefaçon ou le vol de ces marteaux, ça a une implication forte, c'est faire de la fausse monnaie, c'est très très grave au niveau financier. Allez. Je ne sais plus combien est l'amende, mais c'est pas simplement un vol de bon bec dans un kiosque.
Ouais.
C'est
tout
quelque
à fait.
Chose de très sérieux.
À l'époque, c'était la même, la peine de prison était très 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 lourde, voire même les sanctions étaient encore plus lourdes qu'aujourd'hui pour ceux qui essayaient de frauder ou qui piquaient ces marteaux de l'administration forestière. D'ailleurs, souvent sur leur étui, on peut notamment voir un étui de la sorte à l'observatoire du Mont-Aigoual, il y en a certains, des étuis qui étaient cadenassés. Ce sont des étuis en cuir pour pas que quelqu'un s'amuse, un peu comme quelqu'un pourrait s'amuser à piquer le pistolet d'un policier, pour pas qu'on s'amuse à piquer le marteau en question.
Et aujourd'hui, on martèle encore au marteau, mais il y a beaucoup aussi de gestionnaires qui martèlent en faisant des traits de peinture, à la bombe de peinture, notamment en forêt privée où il n'y a pas forcément moins de marteaux qui est utilisé. Et donc, du coup, si vous voyez ces traces de peinture en forêt, c'est souvent que l'arbre, sa destination finale, c'est d'être coupé assez prochainement parce qu'à la coupe, du coup, est passé en martelage.
Mmh. Pour conserver, si vous voyez un petit triangle à l'envers.
Oui, effectivement. Pour les arbres bio. Tout un tas de marquages, il y a les limites qui sont marquées d'une certaine manière, les arbres bio qu'on va garder sur pied d'une autre manière.
Ça pourrait faire un sujet presque d'une émission entièrement parce que, effectivement, le marquage en forêt, nous, c'est l'objet d'un long échange avec nos collègues de l'ONF. Et effectivement, le marteau n'est plus forcément systématique, l'utilisation du marteau à l'ancienne, mais un trait oblique. Donc ça signifie que l'arbre va y passer souvent. Et nous, on utilise des marquages donc contradictoires pour proposer à nos collègues de limiter. C'est souvent des triangles, ça peut être des points, ça peut être aussi un cercle qui contourne l'arbre.
Ah oui.
Mais tout ça, on pourrait l'expliquer de manière précise.
Ah oui.
Mais surtout que
on invitera un agent du parc.
Là, pour rebondir sur ce que tu dis, sur les outils de marquage des arbres, ils étaient assez divers. On avait aussi la torcotte qui permettait de marquer les arbres une fois au sol, la marcotte. Donc ces outils, un peu comme le principe du marteau forestier, sauf que là, cette fois, on n'a pas de côté hachoir. On va percuter les grumes une fois au sol pour apposer soit un volume ou un code de référence qui servira au moment de la vente de bois. On peut aussi avoir la rainette, une sorte de petite griffe qui permettait aux forestiers, là aussi, de marquer les arbres. Il y a une multitude d'outils comme ça qui permettaient aux gestionnaires, que ça pouvait être déjà à l'époque des propriétaires privés, comme l'administration des eaux et forêts, l'ancêtre de l'ONF, de pouvoir référencer, marquer des arbres ou des parcelles.
Là, ces objets-là, par exemple, tu les as dans ta collection ?
Tout à fait.
Tu peux nous parler de ta collection ? Combien d'objets as-tu ? Comment tu les as chinés ?
Alors, la quantité d'objets, elle serait difficile à définir. Alors, c'est des objets qui... C'est une thématique qui est assez large, on va dire. Il y a que je divise en trois parties. Il y a une partie de la collection qui est concentrée sur l'histoire cévenole, l'histoire naturelle et forestière, que ce soit des ouvrages, des documents, des vieilles photos, des objets en lien avec cette histoire naturelle et forestière. On va avoir une autre partie de la collection qui va être consacrée à l'histoire de la résistance. C'est notre passion qui m'anime beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir une très belle exposition sur l'histoire de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale dans le département du Gard, mais qui traite aussi un peu de la Lozère et des Cévennes, aux archives départementales, un travail que j'ai fait en partenariat avec eux. Et après, une autre partie de la collection qui est sur l'histoire des vieux métiers par le biais d'une collection de vêtements anciens. Voilà.
Tout à l'heure, tu as du coup abordé le reboisement de l'Aigoual et un personnage qui s'appelle Georges Fabre. Est-ce que tu peux nous dresser son portrait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qui il était ?
Alors Georges Fabre est un personnage, on va dire c'est le personnage emblématique quand on parle du reboisement des forêts de l'Aigoual. C'est une personne qui était major de sa promotion quand il est sorti de l'école forestière de Nancy. Et contrairement à ce que les opportunités qu'il aurait pu avoir, aller dans les grandes forêts, les grands massifs boisés comme celle de Fontainebleau par exemple, ou même Troncé, etc., il a préféré choisir le fin fond de la Lozère. Il a été alors, il est devenu garde général à Mende. Puis par la suite, il a été muté sur Alès et il a pris la tête du service de reboisement et de reforestation de l'Aigoual, où un gros projet de reboisement a été mis en place. Il s'avère que c'est un passionné, quelqu'un de minutieux. Il a fait un très gros travail et c'est un des piliers du reboisement de l'Aigoual qui a permis de reforester ce massif-là, mais aussi à contribuer à cet élan de reforestation qu'on a pu avoir dans l'ensemble des massifs de montagne. Durant cette période de fin 19e siècle, car il faut savoir qu'en 1850, la surface forestière en France était à peu près d'une dizaine de millions d'hectares. Donc elle était au plus faible de sa surface forestière. Donc il y avait de très gros soucis en lien avec ce déboisement, que ce soit des glissements de terrain, de l'érosion, des fortes crues. On avait aussi une pression sur des sols qui étaient complètement dénudés, liés à l'exploitation pour le charbonnage, pour les verreries, pour les fours à chaux, mais aussi un surpastoralisme qui avait lieu à l'époque, lié à l'augmentation de la population. Et il est arrivé dans ce massif et a contribué à ce reboisement. Il a apporté son savoir et ses connaissances et a travaillé avec pas mal de forestiers pour reboiser ce massif. Il a notamment fait ce que peu ont fait dans les grands projets de reboisement, c'est qu'il a beaucoup impliqué la population locale pour que le projet soit une réussite. Et comme on peut le voir aujourd'hui, c'est quand même plutôt une réussite.
Oui. C'est vrai que l'Aigoual, aujourd'hui, est labellisé forêt d'exception. C'est un label national. Ouais, c'est une belle réussite.
Et est-ce qu'on sait combien de personnes ont travaillé là, du coup, sur ce reboisement ? Du coup, qui s'est peut-être étalé sur plusieurs générations de forestiers et de forestières. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui étaient là pour gérer les pépinières, planter les arbres ?
Alors le nombre de personnes, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais on compte à près d'un millier de personnes si on compte tout sur les 30 ans de reboisement qu'il y a eu autour de Georges Fabre, à savoir que le projet a continué par la suite. Les projets de reboisement autour du massif de l'Aigoual ont débuté notamment autour de 1860. C'est sous le Second Empire qu'on va avoir ces grands projets de reforester, reboiser les zones de montagne. Puis par la suite, on va avoir une loi qui est la RTM, Restauration des Terrains de Montagne, qui va donner l'opportunité à Georges Fabre de reboiser ce massif. Et à l'aide de nombreux gardes forestiers et surtout d'ouvriers locaux, alors je ne pourrais plus dire les chiffres exacts, mais rien que pour le territoire de Valrogue, on est sur à peu près plus d'une centaine de personnes. Alors on recrutait essentiellement des adolescents et des personnes âgées pour ces projets de reboisement. Et ils plantaient les arbres qui étaient cultivés dans des pépinières volantes qui étaient dispatchées sur l'ensemble du massif.
Pourquoi ils recrutaient des ados
et des personnes âgées?
Oui.
Il faut savoir qu'au début du, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, quand on avait moins de 14 ans, on pouvait encore travailler. À partir de 12-13 ans, on pouvait travailler dans, que ce soit à la mine ou là, ou même dans les chantiers de reboisement.
Mais du coup, personnes âgées, parce que c'est quand même des travaux de plantation, c'est des travaux qui sont un petit peu durs.
Alors, c'était un travail répétitif et c'était des gens qui avaient du temps. Là où d'autres étaient déjà sur des activités souvent agricoles, gérer des fermes, des commerces. Donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre là tout de suite. Donc, ça a été une opportunité de pouvoir créer une activité pour ces personnes-là.
Et toi tu vis dans l'Ausonais, c'est pas bien loin d'autres forêts domaniales, Malmonté, Lomol, Masdelaire. Je crois que Georges Fabre a un peu sévi là-bas aussi.
Alors oui, il y a Georges Fabre, mais pas que en fait.
En sens positif. Hein.
Oui, bien sûr. On a eu après Georges Fabre avait la gestion des forêts du Gard, donc ces grands projets de reboisement, quand il les a appliqués sur les Gouales, on parle souvent de les Gouales, mais ces projets ont été aussi appliqués dans ces forêts, que ce soit sur les contreforts sud justement du Mont Lozère ou voire même sur les vallées du Luège, etc. Donc, et là, ça va être avec des essences différentes, souvent des essences autochtones, mais parfois certaines exogènes qui vont être utilisées dans le cadre de ces projets de reboisement. Mmh. Et effectivement, Georges Fabre et d'autres forestiers vont appliquer des plans de gestion pour pouvoir reboiser ces massifs. On pourrait citer aussi l'exemple d'un forestier qui est souvent oublié, mais qui a fait un travail colossal aussi sur ces projets de reboisement suite à Georges Fabre, à peu près de 1910 jusqu'aux années 30. C'est Max Nègre qui a permis l'ouverture des pistes forestières, qui a fait beaucoup de travaux sur les essences méditerranéennes. Notamment, il y est pour beaucoup dans l'implantation des cèdres de l'Atlas, cèdres du Liban, des essences qui sont très méridionales et qui viennent notamment du Moyen-Orient ou du Proche-Orient pour l'adaptation au climat méditerranéen. Donc là aussi, lui, il a été pour beaucoup dans ces massifs-là, qui sont plus soumis au climat méditerranéen que le sommet de l'Aigoual, par exemple. Et toujours pour citer ces forêts comme celle du Rouvergue, qui a été soumise dans les années 80 à un très gros feu de forêt, la réalisation de pistes forestières est aujourd'hui un élément clé dans la lutte contre les incendies. Ça a été un des précurseurs dans cette ouverture de pistes pour pouvoir notamment desservir les massifs forestiers, mais aussi les protéger.
Merci
Mathieu. Je crois que tu es assez actif sur les réseaux sociaux. Du coup, si on a envie de voir tes belles tenues ou suivre un peu ce que tu fais, est-ce que tu as une page Facebook ou Instagram ?
Alors, pour l'instant, j'ai pas de page en tant que telle. J'ai mon Facebook personnel, okay. Après, qui me permet pour l'instant de communiquer autour de ça. C'est Rayou des Cévennes, du coup. Mais par la suite, notamment en cours d'année, normalement, il y aura une page et un site internet pour traiter de ces activités-là.
Tu as de prochains événements, sinon, que tu souhaites annoncer ou...
Alors il y a toujours l'exposition qui va rester un an et demi aux archives départementales. Donc, ne pas hésiter à aller le voir. C'est une exposition qui est gratuite, libre d'accès, sur les horaires d'ouverture des archives départementales du Gard qui sont à Nîmes, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça fait aussi un lien avec l'histoire forestière, car l'histoire de la résistance dans nos massifs est intimement liée à ce patrimoine et à cette histoire forestière, notamment l'histoire des reboisements, parce que sans ces massifs et ces vallées reculées, on n'aurait pas ces groupes de résistants, de réfractaires et de maquis qui se seraient installés dans nos massifs.
Merci Mathieu Lévesque.
Avec plaisir.
On te propose de lancer la petite pause musicale ?
Avec joie.
Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter ?
Alors, j'ai choisi L'Affiche Rouge, un titre notamment lié à l'histoire de la résistance et du groupe Manoukian, et qui a été réinterprété par le chanteur de Feu Chatterton.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en y rêvant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma Mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. et toi qui criais la France en s'abattant.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Barthas 107 FM dans l'émission Palabre en forêt et c'est l'heure de la fameuse chronique d'Emeric Sulmont. Place au générique.
Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Alors, Emeric.
Qu'est-ce que je vous ai improvisé comme chronique, c'est ça? Non, eh ben, je surfe sur cette idée des reboiseurs de l'Aigoual, Flau et Fabre, tous les deux, qui ont considérablement apporté leur contribution sur les paysages forestiers, mais pas seulement les paysages, je dirais, d'arbres, mais aussi pas mal d'espèces compagnes. Donc Mathieu, tu as parlé des pépinières qui étaient disséminées sur le massif de l'Aigoual et qui ont servi donc comme source de plantation à droite à gauche. Il reste de ces pépinières un certain nombre d'arboretums qui ont été aussi conservés pour montrer quelles étaient les essences qui ont été choisies,
puis
quelles sont celles qui se sont le mieux sorties. L'arboretum de l'Ordre de Dieu qui est un des plus célèbres, et puis l'arboretum de la Foue. L'Ordre de Dieu, parce qu'il y a tout un jardin botanique associé, enfin un jardin, c'est plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire qu'au départ ça devait être un jardin très entretenu, aujourd'hui ça se maintient mais c'est quand même difficile à entretenir, et il y avait effectivement énorme, il y a 75 essences différentes d'arbres sur l'Ordre de Dieu, il y a eu à l'époque 300 espèces de plantes et arbustes qui ont été plantées.
Sur un petit site comme
sur
ça,
un petit site, un petit vallon, c'est assez colossal. Aujourd'hui, ouais. Ce qu'il en reste, il n'y a peut-être pas d'inventaire précis aujourd'hui de ce qui reste de ça, mais ça a quand même beaucoup bougé, puis on n'a pas aujourd'hui les mêmes moyens qu'avant pour entretenir ça. L'arboretum de la Foue, il était très célèbre à une période, il l'est encore, parce qu'il abritait les arbres les plus hauts de France, qui ont malheureusement été abattus en 2013.
Qu'est-ce que c'était comme essence ?
C'était le sapin de Vancouver, qui vient de Colombie-Britannique, et qui faisait 63 mètres. Oui. Mais qui a chopé une attaque d'insectes et de champignons, et qui a dû être abattu. Donc je pars dans des dérives, là. Flau et Fabre, qui étaient une paire inséparable, on choisit un certain nombre d'essences, ils sont allés les chercher assez loin. Ils ont fait, il y a toute une démarche d'acclimatation d'essences en Cévennes pour savoir quelles sont celles qui méritaient d'être plantées. Donc évidemment, aujourd'hui, si on regarde nos paysages forestiers en Cévennes, on voit précisément celles qui ont le mieux marché. On voit du Douglas, on voit en hauteur de l'épicéa, on voit du cèdre, on voit du pin laricio, évidemment du pin maritime, ça c'était connu depuis même l'époque minière, évidemment. Et finalement, quand on creuse un peu, on n'a pas tant d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces qui ont été plantées sur l'Aigoual, mais peu finalement sont sorties du lot. C'est ça que je trouve assez curieux. C'est qu'on a bien un peu de chêne rouge d'Amérique, ça et là, dans quelques plantations dans les Cévennes, mais on n'a pas toute la diversité qui est présente à l'arboretum de la Foue comme de l'arboretum de l'Ordre de Dieu. Pour une bonne et simple raison, c'est que ces deux arboretums qui sont situés en altitude et que, sur l'Aigoual, ça pourrait fonctionner, mais l'Aigoual bénéficie d'un climat humide, mais ce climat humide, il est loin d'être homogène sur l'ensemble des Cévennes. Donc c'est pour ça que dès qu'on descend en altitude, on perd beaucoup en diversité d'arbres potentiels sur les Cévennes. Il y a un autre point sur lequel je voulais venir, mais je m'en ai déjà parlé plusieurs fois à cette émission, c'est est-ce que vous savez pourquoi, mais peut-être vous ne savez même pas pourquoi d'abord, vous ne savez même pas, c'est ce que je vais vous raconter, c'est que la diversité en essences forestières de l'Europe est bien moindre à latitude comparable aux États-Unis ou à la Chine. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi on a, nous on a, je ne sais pas, on va dire une cinquantaine, entre 50 et 100 espèces forestières, mais en réalité il n'y en a que quelques dizaines qui sont vraiment utilisées en Europe, et on est à 4 à 5 fois plus en Chine ou aux États-Unis.
En termes de diversité forestière. Oui.
Et ça c'est lié, bon je ne veux pas vous faire la devinette, hein, mais ouais. C'est lié à l'histoire au niveau des glaciations.
Oh, j'en étais sûre, voilà. Je n'ai pas osé le dire. Ah,
oh,
c'est vraiment lié à ça. Je crois que je l'avais déjà parlé, en fait, la mer Méditerranée a fait office de barrière infranchissable. Quand il y avait une glaciation, en gros les espèces étaient poussées dans la mer et n'avaient pas d'endroit où se réfugier, sauf un petit peu en Espagne et en Turquie. Mmh. Et donc, il y a plein d'espèces, notamment les chênes sont allés se réfugier dans le sud de l'Espagne, les pins sont allés se réfugier en Espagne comme en Turquie, mais il y a plein d'espèces qui ont disparu et qui ont mis longtemps à réapparaître. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le sapin, le hêtre sont revenus il y a seulement 5000 à 7000 ans après... il y a 5000 à 7000 ans... à partir d'aujourd'hui, mais ils ont mis quelques milliers d'années après la fin de la glaciation, qui était il y a 12 000 ans. Et donc, comme il y a eu du va-et-vient énorme entre les différentes glaciations, il y a eu à chaque fois la disparition d'espèces, qu'on va retrouver un petit peu dans les Canaries ou un petit peu dans les Açores, qui n'ont jamais subi les glaciations. Mais ce phénomène de en gros, les arbres sont poussés dans la mer, ben, il n'a pas existé aux États-Unis, puisqu'il y a un continuum, même si ça fait un peu entonnoir au niveau du Mexique, les espèces pouvaient bouger, pareil au niveau Asie. Voilà pourquoi on a très peu d'espèces. Et je voulais insister là-dessus, parce que finalement, en Europe, on a une diversité forestière qui est pas identique à ce qu'on pourrait avoir en théorie si on n'avait pas eu la Méditerranée. Donc, c'est un fait. Et donc, c'est pas pour justifier qu'on a peut-être besoin d'aller voir ailleurs pour s'ouvrir, en tout cas, notamment à ce qui pousse en sud de l'Espagne ou en Turquie, pour diversifier un peu cette diversité d'arbres. Et c'est ce qui se fait depuis des siècles déjà, enfin des décennies. On est allé chercher le cèdre de l'Atlas qui fonctionne très bien, et c'est une des espèces
aujourd'hui.
Voilà. Et on a des pins turcs, on a un certain nombre d'arbres turcs qui fonctionnent bien. Le sapin de Norman, c'est un sapin qui vient du Caucase. Etc. On est allé chercher ces arbres-là. Et ça, ça me paraît être une évolution logique.
Oui, entre parenthèses, le sapin de Norman, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le sapin de Noël.
Oui, tout voilà, à fait. C'est bien l'occasion d'en parler. Donc, je m'évade. Tout ça pour parler d'un certain nombre d'essences forestières qui ont été plantées, mais qui n'ont pas eu de succès plus que ça. Je pense un des plus faciles à reconnaître, c'est le séquoia. Séquoia, OK, c'est beau, c'est magnifique, ça pousse très vite, ça devient très gros. Mais en fait, ça a besoin d'un climat d'origine oui. océanique qui n'est pas malheureusement ce qu'on a réellement en Cévennes. Donc ça peut assez rapidement mourir s'il a 2-3 années de sécheresse.
Et ça a été le cas d'ailleurs sur les séquoias. Il y en avait à l'Arboretum, sauf erreur.
Il y en a encore, hein.
Voilà.
On l'a vu.
Et ouais. Bah, j'en profite pour un petit hommage à Pierre Mathieu, scieur à Chalappe,
oui.
À Sénéchas, et qui adorait cette essence-là, alors qu'il sciait couramment du châtaignier des Cévenoles, hein, encore un des rares. Mais il avait récupéré un morceau grâce à la ONF de séquoia, et il adorait scier aussi du séquoia. Il adorait la couleur rouge. Voilà. Hommage à Pierre Mathieu.
Bref, je suis perdu. Donc, après, je voulais parler. Non, mais c'est pas de souci. Il y avait donc un certain nombre d'espèces donc forestières qui ont été plantées donc dans un but vraiment de replantation, mais aussi tout un tas de plantes dont le but n'était pas forcément identifié, mais c'était de l'acclimatation. Ils voulaient voir, ils fonctionnaient, ils observaient, ils regardaient si ça fonctionnait. Ils allaient chercher des plantes alpines, pyrénéennes ou même au-delà, et ils ont planté. Et je voulais insister sur ce site-là, et j'invite ceux qui veulent se promener du côté de la col de la Serrette sur l'Aigual, d'aller faire le petit sentier botanique qui mène à la tourbière du Trèvesel. La tourbière du Trèvesel, c'est les sources, en gros, du ruisseau de Trèvesel qui ensuite se jette dans la Dourbie. Un ruisseau donc qui s'écoule de côté atlantique et qui abrite un certain nombre d'espèces qui ont été implantées par Flau. ou ses collègues. Et il y a notamment le piment royal et l'andromède à feuilles de polium qui sont l'une espèce, l'andromède c'est une espèce protégée qui est encore présente 100 et quelques années après l'implantation. Et le piment royal qui est une espèce qui n'a rien à faire ici mais qui est présente sur toute la côte atlantique notamment. Et qui est une plante qui est une sorte d'arbuste entre le saule et le bois joli, je ne sais pas si ça vous parle, mais, et qui est très odorant. Et qui est encore présent sur cette tourbière et qui un peu illustre ce côté très expérimental des botanistes de l'époque qui ont sévi quasiment jusque dans les années 50 à 60 ou encore à cette époque, dans les années 50 à 60, on s'amusait avec des plantes venues d'ailleurs, on les plantait dans d'autres secteurs pour voir qu'est-ce que ça va donner.
Comment ça se passe ?
Aujourd'hui, on n'oserait plus trop faire ça parce qu'on cherche à planter des plantes autochtones, etc. Après, il faut... Mais...
Petite question, ce qui était assez impressionnant dans les administrations d'autrefois, c'était la rigueur avec laquelle ils observaient leurs résultats, ils le reportaient sur des cahiers, etc. Est-ce qu'on a des traces
Oui, il y a une liste qui a été faite par des botanistes d'aujourd'hui sur le nombre d'espèces, je crois que c'est rien que sur environ 150 espèces là, dans ce secteur qui avait été... planter, voir ce que ça allait donner. Il y en a très peu aujourd'hui qui ont résisté. Et je voulais terminer par ce piment royal parce que je me suis amusé, j'aime bien regarder ce qu'il y a comme propriété. C'est une plante que vous verrez sur place, si vous allez en Gascogne, vous en verrez plein dans les zones humides. C'est une plante de tourbière qu'on appelle aussi le myrte des marais ou le myrte bâtard, c'est son nom aussi, et qui est plein d'adaptations remarquables. Vous savez que les plantes comme l'aulne qui sont adaptées au milieu humide, ils ont souvent une association, avec des bactéries pour capter l'azote. C'est la même chose pour cette plante-là. Elle a des bactéries dans ses racines qui fixent l'azote. Elle a plein de glandes odorantes qui fait qu'elle sent très bon et qu'elle a même utilisée comme condiment, mais très très puissant. Elle peut servir à éloigner les punaises du lit si vous en avez, donc au cas où. Ça peut servir. C'est vermifuge, c'est tonique, c'est antisporique. J'ai découvert ce que c'était l'antisporique.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qu'un antisporique ? C'est quelque chose qui est contre la gale. Donc si vous avez la gale, la punaise, c'est le piment royal qu'il vous faut.
On y pensera.
Et autre chose originale, parce que je sais qu'il y a plein de buveurs de bière qui nous écoutent. Elle a servi à parfumer une bière, ce piment royal. Ah. Et avec plein d'histoires que, soi-disant, elle l'enivre promptement quand elle est présente dans la bière. Ça remplaçait les houblons. Voilà.
Ah d'accord. Ah bah on en parlera.
Les gens testent tout. Ben voilà, oui, piment royal. Il faut faire une nouvelle bière au piment royal. Ça peut aussi soigner, soi-disant, l'acné. Moi, j'ai vérifié aucun des propriétés que je vous cite. Donc, ne vous amusez pas avec cette plante. Voilà, puis c'est aussi, enfin, c'est tout ce qu'on peut lire, c'est allélopathe. Alors, qu'est-ce qu'une plante allélopathe? Vous savez, l'allélopathie, c'est toutes les propriétés herbicides ou, en tout cas, inhibitrices de germination des plantes, d'une plante. Notamment, vous avez la calune, vous avez le buis, vous avez le robinier, qui sont très allélopathes, c'est-à-dire qui inhibent la croissance des végétaux en dessous. Pour ça, quand on a des grandes landes, il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse. Mmh. Quand vous avez des boisements de robinier, il n'y a rien d'autre qui pousse. Et donc, le piment royal est aussi allélopathe. Et c'est pour ça qu'il a fait un gros massif dans cette tourbière. Et que donc, on pourrait s'amuser à s'en servir comme bio-herbicide.
Est-ce que c'est une espèce protégée ?
Pas du tout. En plus, elle n'est pas autochtone là où elle est. Presque, on pourrait inviter à en ramasser. Elle n'a pas sa place là.
D'accord.
L'Andromède, qui est lui protégé à l'échelon national, il n'a pas non plus sa place là. Il a été implanté, mais maintenant, quand il est protégé, on est un peu...
Ça vient d'où un peu l'Andromède, du coup ?
C'est des plantes de tourbière, très froides, du Jura notamment. On n'en a quasi pas, je crois, en Massif central, peut-être une station, mais c'est extrêmement rare. Okay. Voilà les jeux auxquels s'amusaient les botanistes du 19e, et ça nous occupe encore aujourd'hui, même si on n'a pas de projets particuliers hein, sur ces espèces venues dont on a hérité, qui sont là. Voilà, on va les voir passer. Il y a peut-être une certaine surveillance sur la renouée de Sakhaline qui est présente à l'Ordre de Dieu et qui est considérée comme invasive. Donc, elle est un petit peu surveillée pour voir si elle ne s'étend pas et qu'elle ne saute pas dans le ruisseau, pour coloniser tout le ruisseau. Voilà tout. J'espère que vous avez tout retenu. Je vous interrogerai la prochaine fois.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Emery.
Et à bientôt.
Merci, Mathieu. Merci, Radio Vartas, pour l'accueil. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Palabre en forêt. Salut.
Au revoir. Palabre en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas.
107.